Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Il y a ce témoignage de Magla, près de 700 000 abonnés sur la plateforme en ligne Twitch. Je suis fatigué, dit Magla. Il est temps que je vous explique. Alors elle explique les appels au viol, les montages porno dont elle fait constamment l'objet. Ce soir, dans le débat du jour, on parle cyberharcèlement, alors que ce jeudi, le président français Emmanuel Macron recevait les acteurs de la tech pour évoquer la protection des mineurs sur Internet. Mais le cyberharcèlement, vous le verrez, ne touche pas que les plus jeunes, loin de là. Alors quelles sont les nouvelles formes de cyberharcèlement et que faire face à cela, face à ce monstre qui est devenu Internet? Quelle régulation possible? Eh bien voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Anne-Charlotte Gros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau de l'ONG Respect Zone, qui est une ONG spécialisée dans la prévention, l'encadrement et la prise en charge face aux cyberviolences et au cyberharcèlement. Face à vous, Charles Cohen, bonsoir. Fondateur de Bodyguard.ai, qui est une entreprise qui développe des solutions pour protéger les particuliers et les entreprises des contenus toxiques en ligne. Notre troisième invité est en ligne justement avec nous. Samuel Comblé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance, qui est une association de protection de l'enfance sur Internet, et du 3018, qui est le numéro de téléphone national pour venir en aide aux victimes de violences numériques. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. J'aurais commencé justement avec vous, Samuel Comblé. Alors j'ai donné l'exemple de cette streameuse, hein. C'est ainsi qu'on appelle les abonnés des plateformes en ligne, les streamers, les streameuses. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble le cyberharcèlement aujourd'hui?
Alors le cyberharcèlement, c'est le fait de recevoir des messages agressifs, violents, des images, des vidéos truquées, en vue évidemment de faire du mal, hein, de porter atteinte, préjudice de manière psychologique aux utilisateurs. C'est vrai que quand on est mis en avant, notamment quand on fait des vidéos YouTube, quand on est influenceur, comme c'est le cas ici, on est mis en avant et donc on est plus à risque de subir et de recevoir ces messages. On dit aujourd'hui que environ 10% des enfants, des mineurs sont aujourd'hui concernés par le cyberharcèlement. Donc ça représente une masse évidemment considérable d'utilisateurs. Et c'est vrai que cette journée que vous avez rappelée tout à l'heure est importante parce que ça permet justement de poser le débat et de pouvoir dire que le cyberharcèlement est un délit et qu'il faut accompagner justement ces mineurs pour à la fois leur apprendre à se protéger de ces messages, à leur apprendre à savoir réagir quand ils sont malheureusement victimes de ces messages, et puis aussi leur apprendre qu'on peut être tous harceleurs potentiels, parce que parfois quand on est devant un écran, on ne se rend pas compte des conséquences d'un message, et donc il faut évidemment appeler à la prudence de chacun.
C'est la journée effectivement nationale contre le harcèlement aujourd'hui, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron recevait ses acteurs de la tech ce jeudi. Vous avez parlé des plus jeunes, Samuel Comblé. Or, l'association dont vous êtes le directeur des opérations, e-enfance, a publié une étude récemment sur le cyberharcèlement. Et ce qui peut surprendre, c'est que les premières victimes de cyberharcèlement, ce ne sont pas les adolescents. Finalement, 20% des adolescents disent avoir été confrontés au cyberharcèlement. Ce sont les 18-25 ans, 60% d'entre eux, donc plus d'un jeune adulte du coup de 18-25 ans, sur deux, dit avoir été confronté au cyberharcèlement. Comment on peut expliquer ces chiffres-là? On peut imaginer pourtant qu'un jeune adulte est mieux armé pour faire face à cela qu'un adolescent?
Eh ben pas tant que ça. En tout cas, l'étude effectivement dont vous citez le chiffre, le résultat le montre, hein, c'est qu'on est tous concernés, on est tous des potentiels harcelés, parce que encore une fois, c'est très très facile pour un harceleur d'envoyer des messages agressifs et quel que soit l'âge, on n'est pas du tout protégé par son écran. D'où l'importance de pouvoir en parler, parce qu'aussi les adultes, c'est vrai, on peut être une méconnaissance de la façon de se protéger de ces messages, parce que les systèmes de signalement notamment et tous les outils de protection, notamment Bodyguard par exemple, qui peut être un excellent moyen justement de se protéger, ne sont pas suffisamment connus du grand public, et que parfois on ne se rend pas compte en fait de la spirale dans laquelle on peut rentrer quand on est harcelé. Et ce que nous disent les victimes, c'est que souvent elles ont envie de s'en sortir toutes seules, elles ne vont pas chercher de l'aide, et c'est justement l'inverse qu'il faut faire quand on est dans un début de situation situation de harcèlement, il faut au contraire se tourner vers les services qui peuvent nous aider. Le 3018 peut en être un, parce que quand on libère la parole, eh bien, on arrive à s'extraire en fait, d'une situation qui est très enfermante. Hein. Et c'est vrai que sur le 3018, c'est assez marquant. Quand on écoute les victimes, elles nous disent d'abord qu'elles sont épuisées parce que le cyberharcèlement n'a pas d'horaire. Hein. C'est 24-24, 365 jours par an. Et puis, on est vraiment enfermé parce que souvent, on est seul sur notre réseau social. On peut être éventuellement à la vue d'autres témoins qui ne réagissent pas forcément. Et c'est aussi l'occasion de dire qu'on a chacun aussi notre rôle à jouer pour collectivement combattre ce phénomène et faire en sorte que quand on est témoin d'une situation de harcèlement, eh bien, on puisse aussi être acteur du changement, acteur de la protection de ces victimes et de pouvoir interpeller le réseau social, de pouvoir parfois porter plainte, de pouvoir nous appeler aussi au 3018, puisqu'on a la capacité de faire retirer des contenus extrêmement rapidement, puisqu'on est tiers de confiance auprès de tous les réseaux sociaux et on a la capacité véritable d'aider les victimes avec nos équipes de juristes et de psychologues.
L'équipe du 3018, donc numéro effectivement national pour venir en aide aux victimes de violences numériques. Alors vous avez cité très justement Bodyguard, ça tombe bien, on a le fondateur Charles Cohen à nos côtés dans le débat du jour, on va l'interroger dans un instant, mais avant cela, Anne-Charlotte Gros, Samuel Comblé a dit à plusieurs reprises le mot enfermé, les victimes sont enfermées. Ça c'est une grande différence qu'il y a entre peut-être le cyberharcèlement aujourd'hui avec le harcèlement avant qui précédait ce cyberharcèlement.
Oui, en fait la différence entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne, c'est qu'on a une viralité, c'est-à-dire que quand on envoie un message, on ne se rend pas compte finalement que ce message peut se démultiplier de façon très rapide, avec des algorithmes très puissants, et qu'en 5 minutes, un message peut appeler un autre message, et on se retrouve avec 200 messages haineux en 5 minutes. Donc c'est en fait cette viralité, la portée aussi mondiale, c'est-à-dire que Internet est à la fois fantastique pour ça, c'est-à-dire qu'on a une véritable mondialisation de l'Internet et donc une prolifération aussi géographique. Et enfin, il y a aussi l'anonymat. C'est-à-dire qu'avec l'anonymat, on se sent peut-être plus apte à pouvoir avoir des propos plus vifs parce que on peut se cacher derrière des pseudonymes et enfin la distance, le fait qu'on soit derrière un écran, finalement on se sent peut-être plus libre de proférer des propos haineux, alors que finalement c'est la même chose que ce soit hors ligne ou en ligne, les règles sont les mêmes. Alors il y a des règles qu'on a dû adapter pour le numérique, mais il y a des vieilles règles qui s'appliquent depuis très longtemps et qui n'existaient pas du temps du numérique.
Alors, avec le numérique, le poids justement d'Internet, des réseaux sociaux est de plus en plus important. Est-ce que le poids du cyberharcèlement, de fait, l'est également de plus en plus aujourd'hui ?
Oui, il l'est de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à des pays comme l'Afrique où il y a des réseaux sociaux qui ne sont... des continents comme l'Afrique où il y a des réseaux sociaux qui sont locaux ou des réseaux sociaux qui ne sont pas très connus. Et donc, il y a de plus en plus, chaque jour, plus de monde sur ces réseaux sociaux. Donc, forcément, ça va de plus en plus vite et avec surtout des algorithmes de plus en plus puissants et une technique qui s'améliore de jour en jour.
Et vous qui êtes membre du bureau de l'ONG Respect Zone, on l'a dit, c'est une ONG spécialisée dans la prévention, l'encadrement, la prise en charge face aux cyberviolences et au cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous préconisez en écho à ce qu'a dit Samuel Comblé ? Il a dit, ce qui est difficile, c'est de libérer la parole.
Alors, ce qu'on préconise, c'est déjà de prendre conscience, parce qu'effectivement, ce qu'on a dit, c'est que les personnes qui étaient victimes n'étaient pas forcément conscientes qu'elles étaient vraiment victimes. C'est que certaines fois, il y a des comportements, la personne n'est pas consciente. Donc, il faut une prise de conscience, il faut une sensibilisation. Et cette sensibilisation, bien sûr, elle se fait pour les harceleurs, mais aussi pour les harcelés, pour savoir qu'elles ont des droits, qu'il y a des sanctions pénales, qu'elles peuvent agir, qu'elles peuvent demander le retrait des contenus illicites, qu'elles peuvent porter plainte, qu'elles peuvent saisir un juge. Donc, il y a des mesures très concrètes qui leur sont offertes. Et donc, aujourd'hui, il faut sensibiliser, et c'est toute la population. Parce que finalement, à part peut-être les développeurs des réseaux sociaux, les personnes ne sont pas conscientes de toute cette prolifération. Et je suis encore très étonnée aujourd'hui des chiffres annoncés par e-enfance qui sont très, très alarmants. Donc, on voit qu'en plus, plus on avance et plus les chiffres sont alarmants. Mais nous, à Respect Zone, on pense qu'il n'y a pas que la régulation.
Alors, on va parler de la régulation, mais la faute à qui alors ? Qui sensibiliser en premier ?
Alors, je pense que d'abord, si on commence par la jeunesse, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que plus on commence tôt, et plus on sensibilise, et plus ça fait des citoyens demain qui sont responsables. Mais vous savez, les parents ne sont pas non plus sensibilisés. Donc, il faut vraiment sensibiliser toutes les tranches de la population. Et à Respect Zone, on n'intervient pas qu'à l'école, on intervient aussi dans les loisirs, on intervient dans les entreprises, on intervient vraiment, en fait, Internet, ça touche tout le monde, et tout le monde peut être touché, que ça soit une personne âgée, une personne jeune, mais effectivement, il faut agir en priorité pour les plus jeunes d'entre nous.
Samuel Comblet, psychologue de l'enfance, est-ce que vous diriez que ce fléau du cyberharcèlement, il a été boosté, je me permets ce mot-là, par finalement les confinements qui ont rendu les jeunes ultra connectés?
Alors c'est sûr qu'il y a eu un effet de la crise sanitaire, hein. On l'a vu, on a eu une augmentation de notre activité d'environ 50% pendant les deux années, on va dire, de la crise, tout simplement parce que les enfants ont été projetés pour certains d'entre eux directement dans la sphère numérique sans véritable préparation, hein. On parlait de sensibilisation, et c'est vrai que le numérique nous a rendu énormément de services pendant la crise sanitaire, parce que ça a permis de continuer à suivre les apprentissages scolaires, ça permettait aussi de garder le lien social entre les jeunes, et c'est extrêmement important pour leur construction. Et malheureusement, quand on n'est pas bien préparé à utiliser un outil, et je pense qu'il faut vraiment voir les réseaux sociaux comme des outils, comme des moyens de communication, un outil mal utilisé peut avoir évidemment des revers. Donc c'est vrai qu'on a vu à la fois beaucoup de jeunes, beaucoup plus, je dirais, longtemps sur leurs réseaux sociaux, et ce que l'on a vu aussi, c'est un rajeunissement de ces populations, avec là aussi, évidemment, les risques que ça peut comporter, puisque vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres de notre étude. Même les adultes ont du mal à lutter contre ce harcèlement. Ça veut dire que c'est pas évident d'abord de repérer qu'on est victime de harcèlement, et puis ensuite de savoir comment s'en protéger, et puis vers qui se tourner. Pour les enfants, c'est encore plus difficile. D'autant plus que chez les enfants, il peut y avoir parfois une note de culpabilité, l'impression qu'ils sont responsables du harcèlement dont ils sont victimes, et ça renforce encore plus l'enfermement dont je parlais tout à l'heure, parce qu'ils ne vont pas se tourner vers leurs parents pour trouver de l'aide, parce qu'ils ont l'impression que ce qui leur arrive est normal, parce que c'est eux-mêmes qui l'auraient provoqué. Et ça aussi, il faut combattre cette idée reçue. Quand on est victime, il est normal d'être aidé et on n'est coupable de rien.
Et est-ce qu'il y a un profil type de victime aujourd'hui de cyberharcèlement qui serait en hausse ? Alors, je parlais du phénomène des streamers, des streameuses aussi, surtout.
Alors c'est vrai que c'est un phénomène assez récent, où on entend beaucoup de témoignages de streamers qui nous racontent un petit peu l'envers du décor, je dirais, avec des situations extrêmement violentes contre elles, d'appels au viol, d'appels au meurtre, de situations qui sont extrêmement dramatiques et même impensables, hein, de se rendre compte que des jeunes comme ça qui spontanément font des vidéos très pour le grand public sont victimes de ce genre de choses. Plus on s'expose, encore une fois, plus on est à risque de recevoir ces messages de haine. Il n'y a pas de raison de les recevoir, il n'y a pas de raison d'être comme ça victime. C'est vrai que c'est assez nouveau. Pour revenir sur votre question, il n'y a malheureusement pas de profil type. Je dis malheureusement parce que j'aimerais pouvoir vous citer une catégorie de personnes plus susceptibles d'être victimes, ce qui me permettrait peut-être de la protéger davantage, d'être peut-être plus proactif dans la sensibilisation. Malheureusement, on est tous potentiels victimes. Il est vrai que les filles sont quand même et c'est les statistiques qui nous disent un petit peu plus victimes, souvent parce qu'elles sont plus exposées, souvent parce qu'elles sont plus sur les réseaux sociaux, elles ont parfois plusieurs comptes et qu'elles s'exposent plus, donc encore une fois...
Elles s'exposent parce qu'il y a un phénomène très sexiste aussi du cyberharcèlement aujourd'hui. J'ai l'impression que les plateformes en ligne auxquelles appartiennent ces streamers, ces streameuses, n'ont pas été touchées par la vague MeToo, semble-t-il.
Il y a un effet effectivement du genre, hein, du sexe des personnes qui se mettent en avant. Encore une fois, les filles sont plus attaquées, alors en général pour leur physique, pour leur vêtements, la manière dont elles se mettent en avant. Les garçons sont plutôt attaqués pour leur virilité, pour leur orientation sexuelle véritable ou supposée. Et c'est vrai qu'il y a ces grandes catégories, je dirais un peu absurdes, hein, parce que encore une fois, Internet est aussi un lieu d'expression. Il n'y a pas de raison qu'on soit comme ça agressé pour ces raisons aussi futiles. Mais c'est vrai que voilà, les jeunes filles, les adolescentes, je dirais au milieu du collège, sont statistiquement en général des victimes de choix, parce que c'est souvent aussi autour de cet âge-là qu'on commence véritablement à être complètement autonome sur les réseaux sociaux, parce que les parents nous laissent un petit peu plus de liberté, parce qu'on s'expose plus, parce qu'encore une fois, on est pris dans un cercle d'amis qui nous sollicite aussi beaucoup, et on a envie aussi de participer au travers de cette identité numérique aux communications avec son groupe d'amis. Et c'est vrai que bah voilà, il peut y avoir ces dérives et contre lesquelles, encore une fois, il faut combattre et parler, vraiment mettre des mots dessus pour inviter les victimes à sortir du silence. Je pense que c'est vraiment extrêmement important.
Et libérer la parole, comme vous l'avez dit.
RFI.
Débat du jour ce soir, notre question face au cyberharcèlement, peut-on réguler Internet? On va évoquer à présent les réponses. C'est là que vous intervenez, Charles Cohen, fondateur de Bodyguard.ai, entreprise qui développe des solutions pour protéger les particuliers et les entreprises justement des contenus toxiques en ligne. Quelles sont ces solutions?
Alors pour moi, une des réponses à la toxicité en ligne, c'est une combinaison de trois différents piliers. Il y a un premier pilier qui est le pilier technologique. Un ensemble de technologies, des solutions technologiques qui permettent d'intervenir de façon préventive et donc d'intervenir avant que le mal ne soit fait, en repérant, en détectant et en retirant les contenus toxiques sur Internet afin de protéger le maximum de monde de ces contenus-là.
Ça se passe comment concrètement ?
En l'occurrence, si on prend le cas de Bodyguard, nous on développe une technologie qui, lorsqu'elle analyse un commentaire, est capable de nous dire « bon bah, ce commentaire-là c'est une insulte envers telle personne, c'est une insulte plus ou moins sévère, ou alors c'est du racisme, de l'homophobie, de la misogynie, des menaces, du harcèlement sexuel, etc. » Et en fonction de la teneur des propos et envers qui c'est destiné, on prend la décision en temps réel.
C'est difficile aussi de juger où doit commencer la censure.
C'est extrêmement difficile, d'où l'importance d'avoir une technologie qui est capable de détailler ce qu'elle a trouvé à l'intérieur du commentaire afin de prendre une décision sur des faits, sur de la science. Et ce qu'on développe, c'est également une technologie qui est alimentée, qui est mise à jour par des linguistes experts en toxicité, experts en réseaux sociaux, qui alimentent tous les jours la technologie afin de lui apprendre les nouvelles tendances de haine en ligne. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que la modération et la toxicité, c'est un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que la souris, c'est l'internaute qui va comprendre rapidement les filtres qui sont mis en place par les plateformes et qui va évoluer, qui va changer sa façon de propager la toxicité en ligne. Et on a en face de ça un chat qui est la plateforme, et le chat, il est un petit peu gros, un petit peu obèse, et il a un petit peu de mal à suivre ces changements-là.
Et finalement, le cyberharceleur, donc la souris, a toujours un coup d'avance.
Et du coup, elle a toujours un coup d'avance, et ce coup d'avance, ça représente entre 6 et 8 mois. Et donc, c'est ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. On a tendance à dire « mais les réseaux sociaux ne font rien ». C'est faux. Les réseaux sociaux développent des technologies, développent des choses pour retirer les contenus. Ce qu'on observe, c'est simplement ce coup de retard de 6 à 8 mois, et on observe des réseaux sociaux qui sont constamment en retard vis-à-vis des nouvelles tendances de toxicité en ligne. Donc ça, c'est une première chose. Ces technologies-là, elles doivent être justes. Il ne doit pas y avoir de biais. C'est des technologies qui doivent pouvoir retirer les contenus haineux avec justesse. Pourquoi avec justesse ? Parce que si on commence à sur-censurer les réseaux sociaux, tout ce qu'on va observer, c'est finalement un déplacement du problème. C'est-à-dire qu'en censurant quelqu'un, en étant trop fort sur la modération, tout ce qu'il va faire, c'est que cette personne-là va simplement quitter la plateforme pour aller propager la même toxicité, la même haine en ligne sur d'autres plateformes qui, elles, ne sont pas contrôlées ni contrôlables. Donc, on ne fait que déplacer le problème.
C'est le danger de la mouvance d'Internet. Enfin,
exactement.
Quand j'ai dit c'est un monstre, c'est quasiment ça, Internet.
À l'inverse, si vous ne modérez pas assez, vous êtes finalement sur une plateforme où vous allez avoir énormément d'autocensure. C'est-à-dire que énormément de gens n'oseront plus communiquer, s'exprimer, échanger publiquement sur les réseaux sociaux de peur de se faire insulter. Et donc là également, on est face à un autre problème, c'est qu'on va se retrouver avec les personnes entre guillemets normales qui sont là pour débattre, échanger sereinement, qui vont partir et qui vont quitter la plateforme pour laisser place à une communauté de gens qui ne savent qu'insulter, que être violent, que crier. Donc ça, c'est un autre problème. Mais un des premiers piliers qu'il faut traiter, c'est ce pilier technologique pour être capable de répondre à ce problème de modération de façon globale et en intervenant surtout le plus tôt possible avant que le mal ne soit fait. Mmh. Le deuxième pilier, pour moi, c'est un pilier réglementaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de régulation, on a besoin de parfois toucher au portefeuille, de faire comprendre à énormément de gens qu'il n'y a pas d'impunité et que bon, on ne peut pas non plus tout dire. Les lois qui sont appliquées dans la vraie vie doivent être appliquées sur Internet.
Mais comment vous touchez au portefeuille ?
Alors, il y a des régulations qui arrivent, qui touchent à la fois au portefeuille des plateformes qui laisseraient un petit peu de trop de permissivité vis-à-vis de la toxicité et des contenus illégaux sur leur plateforme. Et il faut rappeler à tout le monde qu'insulter quelqu'un sur Internet ou le menacer, c'est illégal.
Mais c'est appliqué ? C'est appliqué ?
Là est le problème, c'est que la régulation met énormément de temps à ce que ce soit appliqué. Il y a des problèmes de représentants légaux des plateformes en France. L'intervention prend beaucoup de temps. Et le troisième pilier, je suis autour de ces acteurs aujourd'hui, c'est un pilier humain pour moi qui est important, dans un but d'éducation, pour éduquer les enfants, éduquer les gens sur ces problématiques de toxicité. Également des solutions comme e-enfance, comme Respect Zone, pour accompagner les gens dans certains besoins. C'est quelque chose qui est également extrêmement, extrêmement important. Et donc, c'est ce triptyque de piliers-là qui est une solution, selon moi, et qui permettrait de répondre à ce problème-là.
Samuel Comblé, vous qui êtes directeur des opérations de l'association e-enfance, justement, qu'a cité Charles Cohen, pourquoi les actions de modération comme Bodyguard.ai que représente Charles Cohen ne sont-elles pas généralisées aujourd'hui ?
Alors, c'est une très bonne question et je pense qu'effectivement, votre émission, elle participe justement à une meilleure connaissance de ce filtre, hein, parce que c'est vrai que c'est un moyen tout à fait efficace de pouvoir justement lutter contre l'arrivée de ces messages haineux. Je pense que il faut en parler, il faut pouvoir expliquer et faire preuve de pédagogie, expliquer que voilà qu'il y a des outils disponibles, parce que souvent on est un petit peu défaitiste en se disant mais face à Internet on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution, etc. Bah si, des solutions existent et Bodyguard en est une. Et donc je pense que de mieux faire connaître ce système de filtrage et de contrôle justement des messages qui nous sont envoyés va participer à une meilleure protection. Si je peux me permettre aussi de par rapport à ce que disait Charles Cohen tout à l'heure sur les piliers, je pense que une meilleure protection aussi des utilisateurs va passer par peut-être davantage de modérateurs aussi auprès chez les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement combien sont-ils, quelle est leur formation, où sont-ils déployés sur la planète. Et c'est vrai que ça participe aussi, je trouve, cette augmentation peut-être des moyens mis en œuvre pour pouvoir traiter tous ces signalements et le faire très rapidement. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la viralité d'Internet. C'est un signalement qui remonte au réseau social, c'est toujours une situation d'urgence parce qu'il y a de la souffrance humaine derrière et il faut pouvoir intervenir. Et là, le cinquième pilier que je me permettrai de rajouter, c'est aussi de faire en sorte que quand on signale des situations de harcèlement, et bien que la justice puisse aussi avoir les moyens de sanctionner tout simplement. On a un parquet numérique depuis quelques mois maintenant. Malheureusement, il est plutôt utilisé pour des situations de grande ampleur, je dirais, et très médiatique et de grande souffrance. Je pense notamment à la jeune qui avait été harcelée pour avoir dit des choses sur la religion musulmane. Pardon. Et donc, c'est vrai qu'on a des besoins aussi que toute la chaîne en fait de protection puisse agir, que ce soit au niveau des parents parler, des différents systèmes technologiques qui peuvent aider les victimes, et puis après que les réseaux sociaux puissent aussi s'emparer de tout cela, mettre en nécessaire, et puis que les sanctions puissent tomber également, parce que trop souvent on entend des harceleurs nous dire mais de toute façon on peut faire ce qu'on veut puisqu'il nous arrivera rien. Et c'est vrai qu'il faut aussi de cette idée reçue qui doit absolument évoluer.
Alors, justement, que prévoit le droit ? Anne-Charlotte Gros est avec nous, ça tombe bien, membre de l'ONG Respect Zone, parce que Charles Cohen parlait du fait que normalement on peut frapper les plateformes au portefeuille. Effectivement, les actes de cyberharcèlement sont répréhensibles de jusqu'à 35 000 euros d'amende et même 2 ans de prison.
Alors justement, Charles Cohen parlait tout à l'heure de la réglementation européenne. Il va y avoir une réglementation européenne, donc qui va être effective en 2023 pour les très grandes plateformes et en 2024 pour les plus petites. C'est une sacrée révolution, puisque au plan européen, pour la première fois, les Européens ont décidé d'imposer un certain nombre d'obligations aux plateformes et surtout, surtout, ce qui est important, de prononcer des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires si ces obligations n'étaient pas remplies. Donc ça, c'est vraiment la révolution. Et autre révolution qui devient maintenant un classique dans la réglementation européenne et on s'en réjouit, c'est de rendre extraterritoriale l'application de ce règlement, c'est-à-dire que ce règlement va s'appliquer à toutes les entreprises étrangères qui opèrent en Europe. Ce qui veut dire que on va pas invoquer le droit international en disant nous sommes d'un droit étranger, donc nous allons pas appliquer les règles européennes. Ça va être obligatoire et ces obligations passent justement par le renforcement du signalement, parce que le signalement, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, de s'adresser aux plateformes, mais aussi, comme on disait, un représentant légal, puisqu'on sait que toutes ces grandes plateformes ont plutôt des sièges à l'étranger. Et enfin, renforcer une certaine transparence des algorithmes et mettre en place un système de réclamation quand les internautes sont soit victimes, soit accusés à tort s'ils considèrent comme tels.
Et on est obligé d'imposer ce droit finalement. On ne peut pas demander, parce que finalement la responsabilité des réseaux sociaux, il en a parlé Samuel Comblé, elle est limitée. Il n'y a pas une forme de laxisme de la part des réseaux sociaux pour dénoncer du cyberharcèlement. Finalement, ça leur ferait une mauvaise pub aussi, il y a ça ?
En fait, c'est un choix qui a été fait en 2000 en Europe en disant l'Internet arrive, c'est un outil merveilleux, donc on va laisser un peu faire et on va laisser une certaine liberté. À l'époque, peut-être que les plateformes avaient moins d'action sur le flux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une action assez importante sur le flux, sur les contenus qui sont poussés. Donc, en fait, il y a eu un changement de paradigme en 20 ans. On s'est aperçu que finalement, il y avait quand même un rôle actif de la part de ces plateformes et qu'il fallait donc imposer des obligations. Encore une fois, c'est des obligations pour finalement être plus transparent, faciliter l'indemnisation des victimes et l'arrêt des propos haineux, mais il n'y a pas de mise en cause en fait directe des réseaux sociaux. Donc nous, ce qu'on attend bien évidemment, c'est que ce règlement européen soit parfaitement appliqué et que j'imagine que toutes les plateformes actuellement sont en train de travailler pour cette mise en vigueur. Donc c'est une petite révolution en Europe. Mmh. En France, on a tout ce qu'il faut en termes d'arsenal juridique. On a beaucoup de sanctions pénales qui sont prévues. On a un juge qui peut être saisi. Donc, on va dire que l'arsenal juridique, il existe.
Il est là, mais est-ce qu'il est appliqué ?
C'est pas qu'il soit pas appliqué, c'est que le juge, est-ce qu'il est saisi ?
Mmh. En fait, il y a un problème de dépôt de plainte. Il y a
exactement.
Plus de deux tiers des harcelés, des victimes de harcèlement, qui disent que finalement, ils ont été enjoints à ne pas porter plainte.
Exactement.
Découragé.
Alors déjà parce que je pense qu'il y a un déficit d'information des victimes et Respect Zone est là pour justement, on a développé une application d'information des victimes sur leurs droits et sur leur orientation par rapport à ce qu'elles subissent. Et en plus, c'est un contentieux de masse parce qu'il y a des contentieux où c'est très clair que le propos est haineux, raciste, qu'il faut le supprimer. Donc, ça paraît manifestement illicite. Et donc, du coup, ça paraît légitime de saisir le juge. Et puis, il y a toute une zone grise où on ne sait pas trop, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas trop si c'est légal, illégal. On confond un peu l'agressivité, on confond plein de choses. La toxicité n'est pas forcément illégale. Et là, cette zone grise, c'est là où Respect Zone intervient pour proposer des alternatives, notamment, par exemple, proposer un outil de médiation qui permettrait justement à tous ces cas où le juge n'est pas saisi et proposer des solutions concrètes de règlement amiable des litiges, assez simples, rapides, pour pouvoir mettre fin à la souffrance. Parce que l'idée, c'est vraiment d'abord de mettre fin au comportement, aux propos haineux, mais aussi à la souffrance de la victime. Donc c'est vrai que la loi, elle est là, mais le juge étant... Avant, il n'était pas du tout saisi. Maintenant, il est un petit peu plus saisi. Donc, il y a quand même plus de contentieux. Il y a le parquet numérique qui a été créé par la loi Avia. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça peut peut-être être un obstacle pour les internautes, surtout quand c'est du contentieux de masse, où ce sont des mots, et que finalement, on n'ose pas aller saisir le juge pour ce genre de fait.
En tout cas, il y a des outils qui existent, et l'ONG Respect Zone en fait partie, également évidemment bodyguard.ai, et on a compris qu'il y avait ce cadre juridique européen qui arrive pour 2023. Merci beaucoup Anne-Charlotte Gros, membre de l'ONG Respect Zone, donc Charles Cohen, fondateur de bodyguard.ai, merci à vous, et merci à Samuel Comblé, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfant et du 30-18. Fin du débat du jour. Merci à Florence Ponce à la préparation, Justine Mascaria à sa réalisation.